Alors là, on pourrait parler de la kedusha.
Oui, tu parles de la kedusha, l'action en général.
La kedusha en général, comment travailler la kedusha, comment arriver à un niveau de kedusha.
Bon.
C'est comment avoir des marches bonnes. C'est-à-dire que malgré qu'on soit là. Ah, voilà. En fait, on est dans un environnement de Torah, mais malheureusement, des fois, on a des pensées qui nous reviennent, donc qui est très.
Ok, donc celui-là traité ce soir, la kedusha, c'est-à-dire la sainteté. Comment, donc plus précisément, vous me dites comment ne pas avoir des mauvaises pensées. Bon, c'est inévitable les mauvaises pensées. Alors, il y a mauvaise pensée. La Gemara dit qu'il est inévitable qu'on ait des mauvaises pensées tous les jours. Mais, c'est quoi ? C'est que furtivement, il y a un petit truc qui passe. C'est rien. Ça n'a pas de valeur. Le problème est quand on s'installe là-dedans. Quand on commence à penser à la pensée.
Quand je parlais des mauvaises pensées, il y a aussi, par exemple, vouloir faire du mal, qu'on voit des gens peut-être penser mal sur eux, qui font mal.
Oui. Oui. Ouais. Très bonne question. Donc la kedusha, la sainteté, ces pensées-là, elles proviennent du passé. Première chose, alimentée par les regards interdits aussi. Quand on regarde, ça donne envie de penser, ça donne envie de regarder encore plus, et ça mène des pensées forcément. Quelqu'un qui fait très attention à ses yeux, au bout d'un moment, avec un peu de temps qui passe pour qu'il oublie son passé, pour qu'il oublie son passé pas très propre, ou pas propre du tout, alors il faut un certain temps, c'est clair, pour que la pureté puisse rentrer, la sainteté, et faire dégager tout atouma qu'on a ingurgité. Mais après cela, s'il fait attention à ses yeux, normalement la pureté, la kedusha, elle vient. Preuve en est qu'il verra sur lui-même qu'il devient très sensible au regard des femmes. Pas au regard qu'elles ont sur lui, que lui a sur elles, d'accord. Il voit ici la macolette, là, l'épicerie, la dame de 70 ans avec la barbe comme la mienne à peu près. Ça peut lui faire de l'effet, d'accord. C'est un bon niveau. S'il arrive à ce niveau-là, ça prouve qu'il y a déjà un grand niveau de sainteté où le féminin en soi déjà a l'action sur lui. Quoi d'autre dire sur la kedusha ? Beaucoup de Torah. La Torah est la chose, la faculté de sainteté la plus grande, donc elle purifie. Non seulement elle purifie, elle répare aussi beaucoup les péchés. Rabbi Noari cite des jours de jeûne à jeûner pour différents péchés qui sont extrêmement astreignants. D'accord ? Zera al-Batala, 84 jours de suite, Fam Nida, 82. Tu t'es fâché 151, Chilou Shabbat 400 et quelques. Donc les jours finiront, on n'en finira pas. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Le Ben Yishraï a donné une combine, il dit que tu jeûnes un ou trois jours, pas de suite, par exemple lundi, jeudi, lundi, et tu payes en tzedaka la somme de nourriture qui t'aurait été nécessaire pour manger pendant ces 84 jours ou 151 jours, ou etc. Nous déconseillons de faire cela. Par contre, le Mishnah Berurah, au nom des grands tzadikim, écrit que tout ce qu'il a des Rabbi Noari concerne les gens qui n'étudient pas la Torah. Ceux qui étudient la Torah, t'as pas de meilleur tikkun que cela. Et c'est clair. Nous avons la peine de temps en temps de faire des petits jeûnes, histoire de quand même un peu peaufiner, mais c'est clair que dans la tchouva, le jeûne, il varie entre 1 et 2% de la tchouva. Et ça, il faut bien s'enfoncer dans le crâne, parce que les gens, ils ont tendance à vouloir sauter sur les jeûnes et délaissent l'essentiel. L'essentiel, c'est la kedusha. La kedusha, c'est la prière avec kavana, prier avec intention. C'est mon rapport avec les autres, m'écraser. Il n'y a pas de plus grand tikkun. C'est marqué que du temps, quelqu'un il avait fait un péché pour lequel il devait amener un korban ola. Il amène le korban sacrifice ola, c'est expié. Il est khatat, il amène le korban khatat, sacrifice khatat, c'est expié. Il est expié. Il a transgressé un péché qui était sanctionné par le Hacham. Il amène le Hacham, c'est expié. Celui qui s'écrase, celui qui est humble, c'est comme s'il a amené tous les sacrifices. C'est une très grande kapara. Quelqu'un il vient, il fait de toi de la ratatouille, toi tu fais carpette. C'est un grand cadeau de Dieu. Donc la tchouva, c'est cela. La prière, les midot, travailler son ego, l'étude de Torah assidue, il n'y a pas de plus grande chose que cela. tu n'as pas de plus grand chose que cela. Surtout le iyun, étudier et refaire, t'as pas compris, tu refais, après t'as compris, tu fais une revision, et encore une revision, et c'est dur. Cette étude de Torah qui est difficile, elle a une capacité de purification extraordinaire. Ça, c'est l'essentiel de la tchouva. Après, il y a la périphérie, les fioritures. Ok, jeûner de temps en temps, aller beaucoup au mikvé, travailler sur les envies, moins de sucre dans le thé, moins de café, moins de Coca-Cola, pas manger son pain jusqu'à la fin. C'est des trucs très bien qui réparent aussi. Mais l'essentiel d'abord, avant de rentrer là-dedans, c'est l'étude de Torah, travailler les midot et la prière, l'essentiel du bon juif. Mais non, un bon juif comme il faut, quelqu'un qui est Oved Hashem, qui est un serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Ça demande beaucoup de travail, mais ça amène ses fruits très rapidement. L'étude de Torah, il n'y a que voir la tête des gens qui viennent à la Shiva, tu les vois à l'arrivée, tu prends une photo, tu prends 6 mois plus tard, il rayonne le type. Il avait une tête de voyou, il rentre, il rayonne. Il rayonne de Torah. Pourquoi ? Parce que jour et nuit, il est amoureux de la Torah. Il fait des revisions, il lève, etc. C'est clair, ça, c'est une chose qui se sent. Ça, c'est l'essentiel du travail à faire.
Vous dites l'étude de Torah, c'est l'Afka, l'étude de la Gemara, ou c'est la...
J'ai dit tout, tout est Torah. Il faut un peu de tout, mais plus c'est une Torah qui est dure, qui exige de se casser les méninges, plus ça a un impact de purification.
Pourtant, c'est pas du tout lié en vrai. Parce que ça veut dire, quand j'étudie Shor, Bor, tout ça, c'est mon Sechel que je nourris, c'est pas mon... C'est mon Avodat Hashem au final...
Je dis pas qu'il faut pas faire aussi Avodat Hashem, qu'il faut aussi travailler les méninges, il faut faire tout. Mais la Torah, elle a une capacité de sainteté qu'aucune autre mitzvah a.
Télim, ça rentre dans le cadre de Télim.
Oui.
Faire des Télim, mais... ça purifie beaucoup plus que...
Non, pas beaucoup plus.
Que faire de la Gemara.
Non. Alors, Chaim de Volozhin l'écrit comme ça. Il écrit un midrash qui dit que le roi David a demandé à Dieu que soit considéré, comme, quand on étudie les Télim, comme si on étudie les Mishnayot, Negaim et Aholot. Negaim et Aholot, ce sont les lois de pureté et d'impureté, c'est des choses très compliquées. Donc, il a demandé. Rachamim Volozhin, il dit que Dieu n'a pas répondu. Donc, on est en safek. J'ai trouvé un midrash, qui semble que Rachamim Volozhin n'a pas trouvé, qui dit que oui, que Dieu a répondu que oui. Ok, alors c'est Mishnayot de Nagim Vaolot. Mais c'est comme. Et on ne peut pas se suffire de Tehilim. Tehilim, c'est bien, mais c'est clair que se casser la tête dans la Gemara, c'est tu t'investis beaucoup plus. Tehilim, quand tu es Tehilim, ton corps, il est là, il est à Honolulu. D'accord, tu peux avec des filles et dire Tehilim. La Gemara, on ne peut pas faire la Gemara en pensant aux filles. Ça ne marche pas. C'est ou ça. D'accord ?
Si je lis du Moussa sur la Kedusha, par exemple.
C'est bien, il faut lire. Il faut lire du Moussa sur la Kedusha. Il faut faire Tehilim, il faut faire des Mishnayot, il faut faire du Chumash, tout ça. Mais l'essentiel du Tikkun, c'est marqué dans les livres, c'est l'étude de Gemara en Yun, qui casse, parce que c'est l'effort que tu fais. C'est un effort. Quelqu'un qui a fait un péché.
Une seconde.
Le fait de faire un péché, c'est le fait de ne pas se retenir. Se retenir sur le péché, ça demande un effort. Je n'ai pas fait l'effort. J'ai laissé ma ta'ava, ma pulsion, se réaliser. La réparation doit être du même type. C'est-à-dire, quand j'ai une pulsion maintenant de ne pas vouloir encore relire la page de Gemara, et je ne peux plus me concentrer, j'en ai marre, c'est difficile, je refais encore une fois. Cet effort que je fais, c'est celui qui a la grande capacité de réparation. Parce qu'elle nécessite un effort. Les Foum, Tzahara, Agra, Chazal ont dit, en fonction de l'effort, ainsi est le mérite. Donc tu veux maintenant un grand mérite qui puisse être palliatif de grands dégâts que tu as fait, il faut de l'effort. Tehilim avec effort, c'est dur à faire, Tehilim. Bon, si quelqu'un fait Tehilim en pleurant, c'est très grand Tehilim, c'est très grand. Fais-le en pleurant, fantastique. Mais c'est du niveau du sentimental, il faut de ça. Il faut tout dans la Torah. Il faut des Tehilim, il faut de la Mishnah, il faut du Chumash, il faut du Moussa, il faut de l'Ashkafa, il faut de la Gemara, il faut de tout. Maintenant, l'essentiel, une fois qu'on a un peu... L'essentiel doit être quand même dans la Gemara. Parce que c'est ça qui a la faculté de tikkun énorme. Le iyun.
Ah, il y a des personnes qui tirent un profit de l'étude de la Gemara. Parce qu'ils ont
bien sûr.
Qu'ils font des mathématiques, ils ont l'impression qu'ils font de la logique.
Non.
Ils nourrissent leur
cerveau.
Il y en a qui ressentent ça.
Ils ressentent la kedusha. Ils ressentent aussi le plaisir de l'énigme.
Alors que dans Tehilim, ce que je veux... Enfin, juste pour dire ce que je veux dire, c'est que dans Tehilim,
il n'y a pas du tout ce sentiment-là, il n'y a rien. T'es complètement, quand tu fais ça, c'est complètement bâtel, c'est-à-dire que tu fais ça comme une prière de Dieu.
Il y a un grand admor qui s'appelle l'admor de Sokhatchov, qui a écrit beaucoup de grands livres de l'Halakha, entre autres Avne Milouim et le Igletal. Igletal, c'est un livre qui est sur les Tal Melachot, les 39 Melachot de Shabbat. Et là-bas, dans l'Akdama, on a ce livre, si tu peux voir dans l'introduction, il parle de la grandeur de l'étude de la Torah. Et il dit, il y a des gens qui se trompent. Il faut étudier la Torah et Shem Shamaim. Shem Shamaim, ça veut dire vraiment pour Dieu. Et il y a des gens qui ont du plaisir à étudier. Ils aiment étudier. Il dit, c'est pas Shem Shamaim, c'est tout à fait le contraire. Le grand désir de Dieu, c'est qu'on étudie avec joie. J'ai fait un cours hier, tu n'étais pas là, je pense, où je parlais que Dieu est une relation d'amour. Et l'étude de Torah, c'est la connaissance d'Hachem, comme une relation qu'on a avec une femme, on lui parle, elle nous parle, et on est en mode de communication, de connaissance l'un de l'autre. C'est ça ce qu'Hachem veut. Donc on doit bien sûr avoir beaucoup de bonheur à étudier. Ça a beaucoup plus de valeur qu'une Torah qui est faite sans joie et sans plaisir. Ça prouve que tu aimes Hachem. Mais de même que nous avons dans notre esprit plusieurs facettes de l'esprit. D'accord ? Tu as le profit que tu as d'un calcul intéressant. Tu as le profit que tu as de la beauté des choses, les arts plastiques. Le profit que tu as d'une belle musique. C'est des choses qui sont différentes. De même, dans la Torah aussi, tu as des aspects différents. Donc il faut tous les satisfaire. C'est pour ça qu'on aura plusieurs choses. On aura le chumash, on aura l'ashkafa, on aura la halakha. Mais l'essentiel reste la Gemara. L'essentiel reste la Gemara. Pourquoi il est appelé Tamoud Bavli, dit le Réma? Parce qu'il est Mebouval. Bavli signifie effectivement mélangé. Bavel, c'est Babylone, parce que là-bas sont mélangés tous les morts du déluge. Tous les morts sont arrivés là-bas en Babylonie. Parce qu'il est mélangé de toute la Torah. Parce que quand tu fais la Gemara, tu as de tout dedans. Tu as du Chumash, tu as de l'Acha, tu as de l'Alacha, tu as du Tanakh, tout ce qu'il faut. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas se. En tout cas, ici à la Yeshiva, on a besoin aussi d'un peu autre chose. Il y a une grande bagarre, il y a environ un siècle et demi, dans le monde des Yeshivot. Est-ce qu'on mettait 20 minutes de moussard? Rabbi Chaim Lvov Lojin n'a dit jamais de la vie. 20 minutes de moussard, mais tout le Torah. Il y a tout dans la Gemara. Quelqu'un qui dit la Gemara comme il faut, il aura tout. Et le moussard est tout ce qu'il faut. Et c'est vrai qu'à des certains niveaux, en Kudusha, tu n'as pas besoin. Mais le commun des mortels comme nous, à la fin, ils ont tranché que oui, qu'on mettait 20 minutes de moussard. Et chez Yeshiva, il y a besoin de plus encore, parce que les gens doivent être formés. Il ne peut pas venir quelqu'un, maintenant il vient de perpète les oies, tout coup, le même matin, en Gemara, change un carter. Au bout d'un an, il devient un super calé en Gemara, mais il ne sait pas être chômeur Shabbat. Il ne sait pas se comporter avec un autre. Il y a beaucoup de formations, de constructions que les gens n'ont pas eues ici, qu'il faut leur donner. Mais l'essentiel reste la Gemara. Si nous, on a traversé l'exil, c'est parce que les grands d'Israël, il y a 2000 ans, ils ont mis sous place une Torah d'exil, une Torah qui nous permettait de résister dans l'exil. Ça s'appelle la Gemara. Et c'est grâce à ça qu'Am Israël tient. La Gemara. Et dans les Chéos, on étudie la Gemara. C'est 98% du temps, c'est Gemara, 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 Gemara. Pourquoi? Parce qu'elle exige un effort. Et quand tu es en effort, donc tu te rapproches d'Hachem. Il n'y a pas de résultat en Kdusha sans effort. Ça n'existe pas. La Kdusha, elle est le résultat proportionnel direct de l'effort qui est investi. Maintenant, pour la suite de la question de Rouven. D'autres pensées maintenant, des pensées de nerfs, de haine, de concurrence, de jalousie, de maîtrise, d'accord? Tout cela provient de notre mauvais, très mauvais ego. Et on a un très mauvais ego, il faut le savoir, celui qui voit qu'il a un bon ego, il se plante, d'accord? On a tous un très mauvais ego. On a aussi une neshama qui est très très sainte, et très très lumineuse. Avec notre neshama, on doit aller arriver à raisonner le ego. Comment on fait? Chaque fois qu'on a une pensée mauvaise qui vient, il faut rapidement d'abord attraper qu'on est en train de penser une mauvaise pensée et se dire, cette pensée, elle n'est pas droite, elle n'est pas juste. Pourquoi? Quel est ton but là-dedans? Le but que tu vois, c'est petit, c'est mesquin. Tu veux quoi? Tu as de la haine? Alors, quelqu'un, il a un sentiment de haine pour un autre. Est-ce que c'est légitime? Non, tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Et lui, la personne qui me fait du mal maintenant, il est envoyé par Hachem pour me faire du mal. Pourquoi je lui en veux? Lui, c'est pas. Il a, il se comporte comme une ordure. C'est pas mon problème. C'est lui et Hachem. Si Hachem me l'a envoyé, c'est moi, j'ai ici un compte avec Hachem, pas avec lui. Et comme ça, donc, ce sentiment animal de vengeance que j'ai ou de haine que j'ai, avec la raison, je peux le calmer. Mais il faut répéter ça sans cesse, parce que la bouffée imaginative qui vient de notre ego, elle est super puissante. Et les gens, la majorité des, la grosse majorité des êtres humains vit dans leur film, d'accord, imaginatif des pulsions qu'ils ont toute la journée. Nous, on doit au contraire comprendre, c'est la partie égo, c'est du mensonge, c'est rien, c'est d'imagination, c'est des pulsions animales. Avec ma tête, savoir que c'est faux. Et me le dire, et me le répéter, et ce travail qu'on fait sans cesse, à la fin, il amène ses fruits. C'est un travail qui est lent, un travail de pas de fourmi, mais qui amène ses fruits, qu'au bout d'un moment, on va plus haïr. On va plus haïr. On va plus être en concurrence, on va plus... C'est un travail sans cesse. Ça, il faut beaucoup de moussard. Moussard, ça veut dire lire la théorie que je suis en train de parler, la répéter sans cesse dans le moment de moussard, et la répéter souvent sans cesse dans la journée, en travaux pratiques. Lorsque ça arrive, travaillez la tête maintenant. Travaillez la tête pour pas rentrer dans la... dans le film que veut me faire vivre le ego. C'est bon ?
Oui, mais il faut... À voix haute, ça marche. Mais quand on est avec des gens et tout, on ne peut pas parler à voix haute.
À voix basse.
Dans la pensée, c'est difficile de...
Non, c'est possible aussi. C'est des techniques à apprendre. Il faut avoir le résultat... Si on fait attention à ça, il faut faire... Je crois qu'on ne peut pas agir sur tous les points d'un coup. Donc il faut pendant un certain temps, tu prends 2-3 semaines maintenant, une semaine ou 3 semaines, tu travailles sur un point. Et tu y penses toute la journée, tu lis Moussard toute la journée. Et donc tu t'habitues maintenant, quand le cas pratique arrive, tu es déjà conscient que ça arrive. Tu fais attention et tu analyses ce qui se passe. C'est beaucoup plus facile parce que tu es prêt à cela toute la journée. Si tu vas sur tout azimut, alors c'est pas possible. Donc c'est bien de prendre des projets sur un sujet maintenant. Voilà, maintenant je travaille sur ce sujet-là. Emmet. Parler que Emmet. Tout le monde sait qu'il faut parler que Emmet. Mais combien de fois par jour ça nous échappe un petit... D'accord ? Donc maintenant tu dis beaucoup de mensonges là-dessus. Tu te le répètes, tu fais attention. Et quand tout à coup, tac, tu as l'occasion de dire un mensonge, tac, même si le mensonge est sorti, au moins tu as fait attention. Tu regrettes, après tu peux récupérer, dire non, je m'excuse, j'étais pas précis dans ce que j'ai dit. Tu fais attention, il y a un travail qui se fait. Il n'y a rien qui n'arrive sans travail. Hachem nous a donné une terre, Adama, une terre sauvage. À nous de la travailler. On la travaille, alors c'est marqué à la fin Adamel Elion. Je ressemble au Elion, celui qui est supérieur à Dieu. On peut, d'un champ qui est complètement sauvage, faire le jardin potager, le Gan Eden. Ça demande du travail. Celui qui va dans son champ, il lance les graines, et après il va au bord de la mer, et il fait dos au ventre, dos au ventre, dos au ventre, il n'y aura rien, il n'y aura rien que des ronces. Ça, c'est la majorité des êtres humains qui vivent leur kiff, d'accord ? Alors ils deviennent invivables. Invivables. On va parler dernièrement de quelqu'un, voilà, un monsieur, il a entre 50 et 60 ans, nerveux. Nerveux. En public, sa femme lui fait une remarque, il lui fait une tarte. C'est quoi ça? C'est quoi ça? En public, elle a honte qu'il le fait, mais lui-même, il se sent mal de ça, c'est clair. Mais il peut pas s'en tenir, il ne sait pas travailler. Israël Messalant donne un exemple stupéfiant, un exemple authentique. J'espère qu'on ne fera pas partie de ces gens-là, mais il faut travailler. Un type était agonisant sur son lit. Et allait mourir dans la journée. Un vieux pépé dans son lit en train d'agoniser. Les enfants sont montaient toujours, avec une échelle comme ça, et ils tapaient comme ça, ils regardaient par la fenêtre, ils tapaient tout ça. Et je crois qu'ils s'énervaient et leur criaient dessus. Agonisant, il se lève péniblement de son lit, il va ouvrir la fenêtre, encore il est dans 3 heures, t'es dans l'amaba. De ça, tu t'occupes. Les midotes. Bien qu'il sait que c'est idiot, plus fort que lui.
Par exemple, les midotes, justement, c'est beaucoup plus important que l'agma pour l'agboucha, tout ça.
Je vais te répondre. Le message que je dis maintenant, qu'il faut avoir des bonnes midotes. Il faut aimer son prochain, vivre en paix, le respecter, être humble. Toutes les Bibles du monde, quand je dis Bibles, toutes les modes de pensée le disent. Combien tu as de mouvements dans l'histoire qui ont prôné le respect entre les êtres humains, la paix, l'aide sociale, la non-débauche. Au moins 1000 mouvements. Au moins. Que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, tout le monde dit la même chose. Tout le monde dit la même chose. Pourquoi ils n'arrivent pas ? le seul peuple au monde qui n'a pas tué, qui n'a pas fait de génocide au nom de aime ton prochain comme toi-même, c'est le peuple juif. Tous les autres qui prônent l'amour et la paix, c'est à la force de l'épée ou des bombes atomiques. Donc, dire le message que j'ai dit, tout le monde le veut, pourquoi on n'y arrive pas? Parce que même si quelqu'un fait un travail sur soi-même, comme je dis maintenant, un travail sur le ego, il ne pourra pas y arriver. Parce que l'ego est beaucoup trop puissant. Beaucoup trop puissant. Il faut une aide d'Hachem. Qu'Hachem vienne et affine l'ego. Il le calme. Il enlève toute sa puissance d'énergie maléfique. Ça s'appelle Kedusha, la sainteté. Il faut qu'Hachem vienne en nous, qu'on fasse entrer en nous beaucoup de lumière d'Hachem, et cette lumière, elle évacue beaucoup du mal. Il y aura encore du travail à faire, c'est clair. Mais sans ça, no chance, aucune chance. Comment on amène cette Kedusha? Sans elle, on ne pourra jamais faire bien le travail sur l'ego. Ça s'appelle l'étude de Torah avec sueur. Difficile. Sans ça, aucune chance de réussite. C'est ça qui amène la Kedusha, et c'est ça qui fait qu'on est Am Israël. C'est grâce à ça qu'on est ce que nous sommes. Tu vois bien que Chazal n'ont pas donné comme élément de pérenniser du peuple d'Israël l'étude de Tehilim. Ils n'ont pas dit maintenant que chacun fait une heure Tehilim par jour, deux heures, trois heures, quatre heures. Ils n'ont pas fait ça. Dans les grandes Torahs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rentraient au Beth Midrash, ils prenaient les Mishnayot, les Braithot, la Gemara, et c'est ça qu'ils faisaient de tout temps, depuis Rebbi jusqu'à aujourd'hui. Qu'on fasse maintenant une grande campagne Tehilim.
Oui, mais c'est pas pour ça qu'ils avaient de la santé.
Les grandes Torahs de tous les temps?
Je sais pas, non, ceux de la Gemara, c'est sûr, mais
alors,
ceux de nos temps à nous contemporains.
Les grandes Torahs, les grands, c'est qui les grandes Torahs?
On peut être un grand Raham, un grand de la Gemara, tout répond, tout connaît, tout Iyoud, machin, tatita, tout ce que vous voulez, Alaha, machin, mais pas être quelqu'un qui sait se comporter avec son prochain.
Impossible. On peut arriver à être un Talmid Raham qui sait beaucoup, qui connaît le chasse, il a fait bien 10 fois le chasse dans sa vie, voilà. Être une ordure.
Voilà.
Mais ça, c'est pas être un gadol, c'est pas un grand. Un grand, c'est bien plus grand que ça. C'est bien plus grand que ça. Et ça, c'est impossible si on n'est pas metoukan, si on n'est pas propre au niveau de nos midot. Quelqu'un qui n'est pas humble, il pourra jamais être grand en Torah. Impossible. Impossible. Et quand je parle des grands, ce sont des grands qui avaient tous Ruach HaKodesh, la grande majorité.
Ah, c'est ça, moi, que je vous dis.
Alors, comment ils sont arrivés à Ruach HaKodesh?
Ah oui.
Comment ils sont arrivés?
C'est sûr qu'il allait venir des îles, mais il y en a.
Comment il est arrivé?
Qu'on considère comme des gdolim, mais que, en fait, non. Comment ils sont arrivés?
Oui.
Par le travail sur eux-mêmes, par l'étude, c'est un ensemble de choses, c'est pas que l'étude.
Demande-leur.
Non, mais c'est sûr que c'est un ensemble.
C'est un ensemble, mais quel est l'essentiel? Ils sont connus pour quoi? Pour être des grands Tehilim? Ils se lèvent à 3h du matin, ils vont au mikvé, c'est ça leur grandeur?
Non, mais il y en a qui sont des darim hyper.
Mais on les appelle grands au nom de quoi?
Ils
font tout ça, mais tu leur demanderas, c'est quoi qui a fait qu'ils soient grands? On demande ce type-là, c'est un grand quoi? C'est un grand quoi? Tu te diras, un grand Torah. Grand Torah, connaissez la Torah.
Mais parce que si quand t'es comme ça, ça rentre tout seul après. T'es un Kéli, tu deviens un Kéli. Quand t'es comme ça, tu deviens un Kéli.
Oui.
Si t'es pas comme ça, tu veux pas être un Kéli.
Comment il devient un Kéli? Comment il devient un Kéli? On va migrer à 3h du matin?
Non, mais en travaillant sur lui, il est stable.
C'est quoi le grand travail? Alors, je t'ai expliqué.
J'ai
pas dit que non, j'ai dit qu'il faut le travail. C'est quelqu'un qui il sera un grand Torah, il va travailler, il va étudier beaucoup la Torah, il va pas travailler ses midot, il restera un Talmid Chacham ordure. Et il y en a, c'est clair. Mais travailler les midot sans Torah, impossible. Parce que le grand cadeau qu'Hachem nous a donné, c'est pas le message que tout le monde dit dans le monde entier, 1000 mouvements qui disent on veut travailler les midot, ça tous les goyim aussi ils le disent. C'est la Torah, c'est ça le cadeau. Matan Torah, au moment où on est venu à Amisraël,
c'est pas peut-être la
Gemara,
ça peut être Moussa.
Alors je t'explique maintenant. Quand les grands de la Torah nous ont dit, eux qui sont arrivés, les grands de Torah nous ont dit, sache que la clé est l'étude de Torah avec Iyun. Et pas le reste. Le reste, ce sont des à côté, des accessoires. Nécessaires, il faut aussi. Dans un repas, il te faut un peu de vin, il faut un peu de salade, Il faut de l'eau, un verre d'eau. Ok. Et si tu as un repas qui est fait de vin, d'eau et salade, tu crèves. Il faut du pain et de la viande. Le pain et la viande, c'est le yin. Verstehst? Baruch Adonai, Rabbeinu Amen.